20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. Beethoven sera ce soir encore à l'honneur dans le journal du classique, mais ce soir encore sous un angle méconnu, étonnant même, puisque nous évoquerons ses liens avec la culture orientale, des liens que la pianiste Shani Di Luca nous révèle dans son nouvel album intitulé Cosmos, un album qui met en regard deux sonates de Beethoven avec le raga indien. Shani Di Luca nous éclairera ce soir sur sa démarche, qui met donc en avant la spiritualité et l'humanité du compositeur allemand. Mais avant cela, je vous propose de vous plonger dans un tout autre univers, beaucoup plus léger, celui de La Dame Blanche d'Adrien Boieldieu, un ouvrage qui compte parmi les plus grands succès de l'opéra comique, de l'histoire de l'opéra comique, avec Carmen ou encore Manon, un ouvrage qui fit l'objet de plus d'un millier de représentations salle Favart et triompha également dans le monde entier. Alors cela faisait plus de 20 ans que cette Dame Blanche n'avait pas résonné en ses murs, et voici qu'elle revient, fait l'objet d'une toute nouvelle production à découvrir dès demain et jusqu'au 1er mars. Une nouvelle production confiée à la metteuse en scène Pauline Bureau, que j'ai pu rencontrer hier soir à l'Opéra Comique, juste avant la répétition générale. Pauline Bureau, particulièrement stimulée à l'idée de redonner vie à cette œuvre si emblématique de la maison.
C'est vrai que ce qui est stimulant, c'est que l'œuvre est super et que je pense que c'est pour ça qu'elle s'est jouée plus de 1000 fois à sa création. J'ai eu énormément de plaisir à travailler cette Dame Blanche et puis il faut dire que le personnage de la Dame Blanche est particulièrement chouette. J'aimais beaucoup que ce soit effectivement une femme et une femme qui soit active, c'est-à-dire pas dans une fragilité, pas dans une souffrance, mais vraiment qui tire les ficelles de l'action et puis qui assume aussi son désir de garder ce château. Ce qui est assez beau, c'est qu'elle a vraiment deux visages. Elle est d'un côté une jeune fille absolument timide dont on n'imaginerait pas qu'elle est capable de ça. Et puis la nuit, elle se transforme en Dame Blanche. Et du coup, moi, ce qui me plaisait, c'était de travailler sur ces deux personnalités. C'est-à-dire en même temps ce côté jeune fille et en même temps la possibilité d'avoir une vie nocturne beaucoup plus débridée dans laquelle elle assume peut-être aussi qui elle est d'une façon plus violente, plus sombre, plus sexuelle aussi. Enfin voilà, dans plein de possibilités de soi, on va dire.
Petit extrait du chœur des paysans écossais au tout début de La Dame Blanche de Boieldieu, capté hier lors de la répétition générale de cette production à l'Opéra Comique, avec ici le chœur Les Éléments et l'Orchestre National d'Île-de-France dirigé par Julien Leroy. Alors cette Dame Blanche nous transporte en Écosse et met en scène toute une galerie de personnages qui gravitent autour d'un château à l'abandon. Le personnage central, c'est cette jeune fille, Anna, qui se déguise la nuit en fantôme. Qui sont les autres qui tous convoitent ce château? On écoute Pauline Bureau.
Alors, il y a George Brown, qui est officier et qui revient là. Et il ne sait pas qu'il y est déjà venu puisqu'il n'a aucun souvenir d'enfance. Et tout le principe de cette comédie romantique gothique, on va dire, c'est de faire que ces deux personnages principaux, c'est-à-dire Anna et George, vont renouer avec leur petite enfance puisqu'ils se connaissaient étant tout petits, se sont perdus de vue, ils se retrouvent à la vingtaine. Donc, il y a effectivement George et puis il y a Gaveston, qui est l'intendant, qui est une figure noire, sombre, qui lui veut acheter le château, le garder pour lui et virer tous les fermiers des environs. Puis il y a Marguerite. Marguerite est là depuis 15 ans et elle est restée après le départ de la famille et ça fait 15 ans qu'elle vit seule dans ce château. Alors avec en même temps une majesté, en même temps une folie.
On est dans une ambiance fantastique, romantique, un château en Écosse. Pour un metteur en scène, c'est, j'imagine, inspirant. Vous avez même convoqué la magie pour cette production.
Oui, alors moi, ce qui me plaisait, c'était qu'effectivement, la Dame Blanche met en place un certain nombre de choses magiques qu'elle maîtrise. Et puis, c'était de penser en mise en scène que finalement, tout ça pouvait aussi la dépasser. Qu'il y a tout ce qu'elle maîtrise et puis tout ce qu'elle maîtrise pas et qui finalement la dépasse. Et c'est ça sur quoi on a essayé de travailler. Outre un univers visuel qu'on a essayé de développer d'une façon assez précise et qui soit en même temps hier et en même temps aujourd'hui, parce que c'est un conte et que finalement les contes, c'est assez intemporel.
Un univers visuel assez fantastique, assez onirique.
Oui, assez onirique, effectivement, assez poétique. C'est-à-dire, ça commence, c'est la lande en Écosse avec effectivement des pierres, voilà, la lande, la nuit, la fumée, l'horizon à perte de vue, les étoiles, etc., le petit jour. Et puis, au fur et à mesure, on va s'approcher du château, on va rentrer d'abord dans les dépendances et puis on va finalement rentrer dans la pièce la plus magistrale, la plus gothique, celle qui fait aussi le plus peur de ce château hanté. Et c'est dans cette pièce que viennent tous les passages secrets, c'est dans cette pièce que les héros vont renouer avec leur enfance et que l'action va se dénouer.
On est dans un genre particulier, celui de l'opéra comique, avec donc des parties parlées et d'autres chantées. Comment est-ce que cela s'équilibre entre le drame et la musique ? Comment rendre cela fluide pour un metteur en scène ?
Alors, c'est écrit de façon déjà extrêmement fluide, c'est-à-dire qu'à l'intérieur même de la composition, on va dire que la musique laisse la place au texte et que les décrescendos font que d'un coup le texte arrive, etc. Donc c'est déjà extrêmement bien écrit. Après, c'est vrai que c'est un genre particulier et que j'aime bien dans le sens où la musique est toujours là pour soutenir émotionnellement et dramaturgiquement l'action. Et c'est ce que je découvre aussi avec l'arrivée de l'orchestre. C'est-à-dire que nous, on travaille avec le piano et c'est formidable parce que déjà, on a de la musique pendant les 6 semaines de répétition, mais c'est vrai que d'un coup, l'orchestre arrive et on se rend compte à quel point l'orchestre porte la dramaturgie et puis porte le chant et intervient comme ça dans l'action, toujours d'une façon qui amène de l'émotion, je crois.
Alors de l'émotion et beaucoup de plaisir aussi à travers ce genre de l'opéra comique. Quel plaisir justement vous procure cette musique, cette partition de Boieldieu ?
C'est vraiment une partition qui est dans la joie. Et c'était important pour moi aussi, c'est-à-dire que c'est une comédie vraiment. Et du coup, cette histoire est racontée avec l'élégance de la joie. On va dire qu'on pourrait raconter la même histoire d'une façon tragique, de ces deux enfants séparés dans la petite enfance et puis de cet exil, etc. Mais l'histoire est racontée d'une façon qui n'est absolument pas tragique, qui est joyeuse, qui est amusante. Et cette élégance-là m'a fait vraiment du bien.
Un air de la Dame Blanche, alias Anna, chanté ici par la soprano Elsa Benoît, qui donne beaucoup de caractère à ce personnage central qui tire les ficelles de cette histoire au sein d'une partition aux accents très rossiniens. Un nouvel extrait de la répétition générale de cette production de la Dame Blanche à découvrir dès demain et jusqu'au 1er mars à l'Opéra Comique avec également Philippe Talbot, Sophie Marin-Degore, Jérôme Boutillier, Aude Extrémo ou encore Yann Beuron sous la direction de Julien Leroy et dans la mise en scène qui mêle magie et poésie de Pauline Bureau.
L'Or Maison sur Radio Classique.
On parle beaucoup de Beethoven dans cette année anniversaire, de sa musique, mais aussi de l'homme dont on découvre ainsi les multiples facettes. C'est sous un angle inattendu que nous le présente Shani Di Luca dans son nouvel album intitulé Cosmos, sorti chez Warner, album enregistré avec des musiciens indiens. Un projet original qui revêt une dimension quasi spirituelle, la spiritualité étant au cœur de la vie de cette pianiste qui sait si bien nous toucher, nous faire vibrer et nous révéler l'âme profonde des compositeurs. Shani Di Luca est notre invitée ce soir et nous raconte justement sa démarche.
Je crois que le sacré peut se retrouver dans tout, dans la musique, dans le divin, mais aussi dans un coucher de soleil, un poème qu'on lit, ou, comme en parle très très bien Beethoven, le réel peut être transfiguré par l'art. L'art permet de toucher au sacré. Et pour moi, ça a été merveilleux de découvrir que Beethoven, dans ses recherches spirituelles, puisqu'il avait une vraie quête mystique, s'était intéressé à la spiritualité indienne. Donc ça a été pour moi vraiment un bouleversement.
Voilà, et qui a donné naissance à cet album Cosmos. La musique permet ainsi avec vous de comprendre le monde, de rapprocher des musiques qu'on croirait éloignées. Des choses parfois nous échappent, une histoire secrète de l'humanité qui dévoile un cœur battant. Ce sont les premiers mots de ce très beau texte qui accompagne ce programme. Un programme qui associe donc la musique de Beethoven à la musique indienne. Qu'avez-vous recherché à la base à travers ce projet ?
Alors au départ, évidemment, Beethoven m'a toujours accompagnée puisque j'avais enregistré l'intégrale des sonates avec Valentin Arben du Quatuor Albonberg. J'ai étudié avec Leon Fleischer qui est un grand beethovenien, j'ai joué l'intégrale des concertos. Donc très régulièrement, je me plongeais dans ses écrits, ses correspondances. Et finalement, je n'ai pas cherché vraiment, cette dimension spirituelle de Beethoven est venue à moi par ses écrits. Et quand j'ai découvert qu'en 1816, les premières traductions des textes orientaux arrivaient en Allemagne, Beethoven s'est plongé dedans, donc les textes des Upanishads, qui sont des prières ancestrales indiennes, et il a recopié des mots et même souligné des mots qui parlent du cosmos et de la relation entre l'homme et le divin. Donc pour moi, ça a été vraiment une évidence aussi dans la recherche beethovenienne, puisque lui s'inspirait aussi de Shakespeare, de la mythologie égyptienne. On est surpris de voir à quel point il était ouvert d'esprit, et je crois que c'est une grande leçon pour nous aujourd'hui, dans un monde où on crée des murs, où on se méfie, on crée la peur de l'autre, de voir qu'un grand Beethoven avait une idée, une curiosité par rapport à l'étranger comme source de richesse et d'inspiration.
Thank you. Cet album Cosmos, votre nouvel album Shani Di Luca, associe donc deux sonates de Beethoven, dont la célèbre Clair de Lune, à des ragas indiens. On est d'emblée saisi quand on écoute cet album, dès la première plage, à l'écoute de la sitar. C'est la sitar de Mehmoud Nadem, à laquelle répond votre piano, Shani Di Luca. On est plongé dans une ambiance méditative, avant que ne résonnent ces notes de Beethoven. Vous-même, lorsque vous attaquez au piano quelque part, lorsque vous répondez à la sitar, vous êtes dans un univers particulier, dans la méditation.
Oui, je crois que ce mot de méditation est tout à fait propre à ce disque. C'est une sorte de voyage spirituel qui nous rappelle celui qu'avaient initié Ravi Shankar et Yehudi Menuhin il y a presque 50 ans maintenant, ce dialogue de fraternité, de paix. Et quand on écoute les sons de la sitar, quand elle débute ce disque, on rentre dans des résonances qui sont très particulières. On entend des quarts de ton qui sont propres à la musique indienne. Mais quand on va un petit peu plus loin, c'est ça qui m'a vraiment émue dans ce projet, c'est que Beethoven, dans sa surdité, a aussi imaginer des sonorités et des résonances que personne n'avait jamais écrites. Donc des jeux de pédales, de longues pédales au piano qui nous rappellent justement le spectre de la sitar. Donc en construisant ce programme, j'ai essayé de marier l'imaginaire sonore de Beethoven avec l'imaginaire spirituel des infrasons de la musique indienne.
Cette relation entre ces cultures, entre la musique indienne et celle de Beethoven, ce monde intérieur auquel vous faisiez référence, nous révèle toute la générosité de cet homme qu'on a souvent caricaturé, mais qui avait au fond de lui une profonde générosité, une profonde humanité.
Oui, oui, il est vrai qu'on a une sorte de cliché de quelqu'un d'austère, de misanthrope, mais je crois qu'au contraire, c'était un philanthrope dans le sens noble du terme. Quand on lit sa lettre à Heiligenstadt, son testament, lorsqu'il pense à mourir, mais il est convaincu de l'idée supérieure de l'art, c'est-à-dire cet art qui va élever les gens, les hommes, les rassembler, et que la beauté peut sauver une forme d'humanité, de désespoir. Et je crois beaucoup en cela. Je pense qu'il suffit d'un moment d'émotion, d'un éveil, pour se rendre compte qu'on a droit à la beauté, toute classe sociale, toute culture. Et là, en l'occurrence, ce qui me plaît dans ce projet, c'est de voir que Beethoven, quand je l'ai joué en Inde, à des gens qui n'ont jamais entendu Beethoven, ça a été pour eux vraiment un choc. Ils ont été vraiment touchés par la force beethovenienne. Et quand j'ai joué à la Elbphilharmonie, la musique indienne, avec mes collègues sitaristes et tablistes, les Allemands, qui sont quand même connaisseurs de Beethoven, ont été vraiment emmenés dans ce voyage spirituel. Et au final, on se rend compte qu'il y a de la grâce dans toutes les cultures, et c'est ça qui est le but de ce projet.
Et que ces cultures se rencontrent merveilleusement bien. Comment avez-vous fait justement, Shani Di Luca, pour créer cette fusion entre deux langages musicaux complètement différents?
Oui, au départ, on peut dire que c'est assez déroutant, et il était pour moi très important de respecter les partitions de Beethoven, justement par l'héritage que j'ai reçu de mes grands maîtres, de ne pas toucher à la musique de Beethoven, et en même temps de respecter l'héritage de la musique indienne, puisque le sitariste, par exemple, vient d'une dynastie de 15 générations de sitaristes, donc c'est vraiment des grandes traditions de chaque côté. Et l'idée était de comprendre comment était construite chaque musique, et c'est là où ma recherche a été encore plus évidente, c'est que la construction des sonates de Beethoven sont parallèles à la construction des ragas. Au début d'une sonate, il y a un élément, un leitmotiv, une sorte d'intervalle, comme le début du clair de lune, qui va se développer tout au long de la sonate, comme une âme qui voyage à travers le temps, et à la fin de la sonate, le dernier mouvement du clair de lune, ce sont les mêmes notes, mais accélérées 50 fois, et on a la rage, le désespoir. Beethoven crée vraiment une construction organique. Le raga fonctionne exactement de la même manière. Il y a une cellule au départ qui va se développer tout au long comme un voyage intérieur et qui va aboutir à cette élévation spirituelle. Donc finalement, c'est vraiment la musique qui a répondu à ces questions, et j'ai essayé de construire de façon organique le dialogue entre ces deux grandes musiques. Donc on a vraiment essayé de créer un langage qui respectait le cœur de la musique beethovenienne, et finalement la grande musique se rejoint toujours.
Thank you. La musique de Beethoven, la sonata Passionata, mais aussi la sonate Claire de Lune, dialogue dans votre nouvel enregistrement, Chani Di Luca, avec le raga indien, avec la sitar de Mehboud Nadem et avec le tabla de Mitel Purohit. Un enregistrement qui témoigne de vos racines, puisque vous êtes d'origine sri-lankaise, mais vous avez grandi en Europe. Cette rencontre, ce dialogue entre les cultures orientales et européennes, il a toujours été naturel chez vous?
Je dirais que de vivre entre deux cultures aussi contrastées, européennes et orientales, quand on est enfant, déjà on est dérouté. Pour moi, j'ai eu une quête d'identité qui a été très complexe, très longue, et la musique a été une réponse à cette quête d'identité, puisque la musique est devenue mon identité. Mais ce qui m'émeut, en fait, même dans la pensée allemande, si on se rend compte de l'époque de Beethoven, je parlais de 1816, des premiers écrits orientaux, il y a Goethe qui s'intéresse à Hafez, le grand poète perse, il y a Schopenhauer qui va lire les mêmes texte que Beethoven, et on se rend compte que c'est cette éducation allemande que j'ai reçue en tant que pianiste, sans le savoir, je découvre qu'ils s'intéressent à ces cultures orientales. Donc je crois que la beauté des artistes, de ces gens-là, c'est la curiosité. C'est d'essayer de comprendre ce qui nous unit plutôt que ce qui nous sépare.
Et quand vous faites de la musique, Chani Di Luca, avec ces deux partenaires indiens, vous avez l'impression de partager des moments identiques à ceux que vous pouvez avoir avec des musiciens classiques, des partenaires plus habituels?
Oui, je crois que vraiment, il y a une fraternité dans la musique qu'on retrouve. C'est aussi assez magique de se dire qu'on peut jouer de la musique avec des gens qui ne parlent pas la même langue que vous. Et ça, c'est un miracle que seule la musique peut nous apporter. Et c'est la même chose en tant que partenaire de musique de chambre. On se retrouve dans des langages qui sont invisibles.
Voilà, donc cet album Cosmos qui associe Beethoven et le raga indien, cela vient de paraître chez Warner, un album qui témoigne de votre engagement, de votre ouverture d'esprit, un engagement que vous traduisez également, Chani Di Luca, à travers de nombreuses initiatives. Il vous arrive d'inviter des réfugiés à partager des moments de musique avec vous au concert, et vous vous associerez à d'autres personnes fragiles, des personnes qui sont quelquefois rejetées de la société. Alors cela peut être des malades, des personnes âgées ou des prisonniers, et ce sera le cas de ce projet Watch, projet de l'Orchestre de Chambre de Paris auquel vous êtes associé. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce projet?
Oui, c'est un projet qui me tient à cœur. Cela fait 2 années que je joue pour les détenus, et c'est vrai que ces expériences m'ont bouleversée, dans le sens où pour moi la beauté est une forme de réinsertion. Beaucoup de gens n'ont pas accès à cette beauté. Ils ont fait les erreurs qu'ils ont fait, et je ne suis pas là pour juger. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils sont détenus, mais je suis là à un moment T de leur vie pour leur apporter un accès à la beauté, à l'invisible, comme disait Novalis. Nous sommes plus proches de l'invisible que du visible, et de rappeler qu'on peut accéder à autre chose que cette obscurité qu'ils ont traversée. Et là, avec l'Orchestre Chambre de Paris, nous avons ce projet mis en scène par Olivier Fredge. Et donc, pendant plusieurs semaines, je vais aller à la prison de Meaux, travailler avec les détenus sur le sens du temps. On va parler du temps par le prisme de Schubert et du Voyage d'hiver, et ils vont écrire sur le temps, sur l'attente, sur... On peut imaginer pour des détenus que le temps est quelque chose de très particulier.
Oui.
Donc on va construire ensemble sur leurs textes, et donc je mets en musique avec les solistes de l'Orchestre Chambre de Paris une sorte de réflexion sur le temps qui va aboutir sur ce concert le 30 avril à la scène nationale de Bobigny, où les détenus seront sur scène avec moi, avec les solistes de l'Orchestre de Chambre de Paris, et nous allons partager ce moment avec le public, ce qui est assez exceptionnel.
Voilà, un moment qui s'annonce fort intense le 30 avril à Bobigny. D'ici là, d'autres rendez-vous avec vous, Chani Di Luca, dans quelques jours, le 23 février, au Théâtre des Champs-Élysées. Vous donnerez ce programme Cosmos avec vos partenaires du disque.
Tout à fait. Pour moi, c'est vraiment un moment très émouvant, puisque c'est Janine Rose qui produit ce concert. Et elle a tout de suite cru en ce projet. C'était une des premières qui m'a vraiment encouragée à aller au bout de ce projet. Donc pour moi, c'est une joie de faire cette avant-première au Théâtre des Champs-Élysées. Et puis c'est mon premier disque chez Warner Classics. Donc ça sera aussi le concert de lancement. Donc ça sera un moment très important pour moi.
Et puis on pourra vous entendre 2 jours plus tard, le 25 février à Tarbes. Et puis d'autres rendez-vous, on va continuer à feuilleter votre agenda. Chani Di Luca, vous serez le 3 mars au Théâtre de Caen, en récital cette fois-ci, toute seule.
Oui, tout à fait. Donc bien sûr, je continue la plupart du temps mes récitals seuls, dans le format classique, bien que la poésie ait toujours une petite place. Là, justement, la saison de Caen m'a demandé de pouvoir réciter quelques mots de poésie. Et là, quelques organisateurs me demandent de plus en plus de lire quelques textes poétiques qui sont toujours en relation avec la musique. Et ça me touche de pouvoir ouvrir, disons, des mondes. Et surtout, la poésie et la musique sont pour moi organiquement liées. Et puis, la veille, je vais pouvoir donner des masterclass aux élèves du conservatoire de Caen. Donc, c'est aussi merveilleux de pouvoir transmettre ce que j'ai reçu. Et je vais faire des masterclass aussi à la Fondation Zubin Mehta en Inde au mois de juin. Donc, dès que je peux, j'essaie aussi d'enseigner.
Voilà, donc de beaux projets, de beaux voyages en perspective et ce beau voyage Cosmos dans lequel vous nous entraînez. Un enregistrement qui vient de paraître chez Warner, accompagné d'un très joli texte que vous avez signé puisque vous écrivez des poésies, mais c'est aussi avec beaucoup de poésie et tendresse que vous décrivez vos projets. Merci beaucoup Chanée Di Luca.
Merci beaucoup.
Quelques notes du final de la 23e sonate, la Passionata de Beethoven, par Chanée Di Luca et ses deux complices indiens, Mehboob Nardem et Mittal Purohit, joueur de sitar et de tabla. Un nouvel extrait de cet album Cosmos, sorti chez Warner. Rendez-vous donc le dimanche 23 février à 11h au Théâtre des Champs-Élysées, ainsi que le 25 à Tarbes avec ses trois musiciens, mais aussi le 3 mars à Caen pour un récital ponctué de poésie, et le 30 avril à Bobigny pour ce projet Watch avec l'Orchestre de Chambre de Paris et des détenus de la prison de Meaux. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Charlotte Thoreau-Lassalle pour la réalisation de cette émission. Demain, nous serons en compagnie de la soprano Angélique Boudeville. Très belle soirée que je vous invite à prolonger en musique avec Francis Drezel.